17h25. Ça va pas mal être notre point final avec le remaniement ministériel. Évidemment, les différents mouvements ont été jasés et jasés pas mal parce que l'essentiel était déjà disponible ce matin. Le reste a été confirmé là, dans le spectacle de cet après-midi où on faisait descendre chacune des nominations là, sur...
La musique de The Price is Right.
C'était quasiment ça, là, Come On Down, puis viens spinner la roue avec ton ami François. C'était quasiment ça.
Là, c'était un nouveau ministère!
Ouais, pas sûr qu'ils ont tous trippé sur ce qu'il y avait dans leurs enveloppes, par exemple. Là. On va parler de tout ça avec le caucus Iaccarini lui-même! Incroyable, mais
j'ai
vrai.
J'ai plus de prénom.
Non, tu t'appelles Lucas maintenant, Antonine.
Salut, Antonine, comment ça va?
Salut, ça va super bien. Grosse journée sur la colline parlementaire. C'est sûr, moi, c'est comme un... C'est pas mon Super Bowl, mais c'est comme un match important.
T'avais-tu fait un pool?
Oui, mais c'est dur parce que mon pool, moi, il est infecté parce que j'ai beaucoup de sources puis beaucoup d'infos. Fait que c'est pas juste avec les autres pools. Fait que je participe pas à des vrais pools avec du monde. Ce serait de la triche.
Mais mettons là que t'aurais fait tout ton argent, mais qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans le remaniement. Y a-tu quelque chose qui t'a déstabilisé un peu puis t'as fait « Oh, celle-là, on l'a pas vu venir? »
Ben aujourd'hui, non. Je vais vous dire bien franchement, et je le dis en toute humilité, je l'avais tout, là, le Conseil des ministres, avant la cérémonie. Mais dans les jours précédents, moi, François Bonnardel, qui est sorti du Conseil des ministres, une Françoise Duranceau, qui a une grosse promotion quand même.
C'est qui,
je l'avais pas vu venir.
Ça, c'est Cruella, ça?
Hey, ça, bon, pour les auditeurs qui n'ont pas vu ça aujourd'hui, François Legault... a donné le rôle de présidente du Conseil du Trésor à Françoise Duranceau, anciennement ministre de l'Habitation. Et elle va avoir un rôle important parce qu'une des priorités qui a été énoncée par le premier ministre, c'est de faire du ménage dans l'administration publique puis couper dans la bureaucratie. Et là, voulant faire une petite blague, M. Legault a dit, dans le fond, ça va être un peu comme notre Cruella.
On va le faire entendre, puis on va remarquer d'ailleurs l'hilarité générale, hein, parce que c'était...
Tout le monde avait l'air content.
Il n'y a pas de malaise, hein, comme on dit. On écoute.
Et la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, je me retiens pour ne pas faire une blague, qu'on n'appellera pas Cruella, non... va être en charge. Donc, sincèrement, on enchaîne. La nouvelle présidente du Conseil du Trésor.
Il ne sera pas juste pour rire cette année, hein?
Je me retiens de faire rire. Il aurait pu s'en tenir pour vrai. J'ai trouvé ça... Moi, avoir été Françoise Duranceau, je serais allée rencontrer après en disant « Tu me donnes une job ingrate. Dans les prochains mois, c'est moi qu'on va pointer du doigt comme étant la méchante, celle qui ne veut pas donner de chance au ministère et aux organismes. Puis en plus de ça, tu me fais partir avec deux prises de même le moment... de mon assermentation. Moi, j'aurais sacré mon camp à sa place. Là.
Pour Françoise Duranceau, l'étiquette qu'elle aimerait se faire accoler aujourd'hui, c'est celle d'une personne qui est efficace, qui est pragmatique ou qui est compétente. Et c'est dommage parce que dans les derniers jours, on se demandait si Françoise Duranceau allait être sortie carrément du Conseil des ministres, parce qu'elle a fait beaucoup de gaffes, il faut le dire, mais elle est appréciée de certains partenaires, acteurs dans son écosystème de l'habitation. Et elle était reconnue pour trouver des solutions innovantes, pour vraiment être en mode solution. C'est cette étiquette-là que le premier ministre devrait lui accoler aujourd'hui pour l'aider dans son travail des prochains mois. Là.
Ça n'a pas été nécessairement ce que ça a donné. Moi, je prenais l'exemple de la lutte professionnelle. Là. Quand un méchant veut qu'un mauvais surnom colle, il demande aux gens « Hey, appelez-moi pas gros tweet! » Puis là, le monde se met à crier « Gros tweet! Gros tweet! » « Hey, j'ai dit! Appelez-moi pas gros tweet! » Il a quasiment fait la même affaire avec sa ministre.
Là. Ben, un peu plus, il dessinait lui-même les caricatures dans le Journal de Québec pour la suite des choses. Vraiment, c'était pas nécessaire, mais bon, c'est... Monsieur Legault, c'est ça. C'est de l'authenticité, de la spontanéité, on va dire ça comme ça.
Oh boy, oh boy. Antonine, c'est toute une démotion, ça, Bernard Drainville qui part de l'éducation pour cracher à l'environnement?
Honnêtement, c'est pas une promotion. Par contre, dans le discours du premier ministre aujourd'hui, il y avait un mot important pour la mission que Bernard Drainville va avoir en environnement et on comprenait mieux pourquoi il se retrouvait là. Et il me semble que ça venait un peu, disons, amoindrir cette impression que M. Drainville prenait, en fait, perdait du galon dans le Conseil des ministres. C'est que dans tout l'objectif que M. Legault nous a présenté aujourd'hui d'efficacité, de renforcer l'économie aussi, ça passe notamment par les autorisations environnementales. On trouve qu'il y a trop de bureaucratie, que c'est trop long. C'est un petit peu le pendant québécois de ce qui se passe au fédéral. Hein. Monsieur Carney aussi veut que ça aille plus rapidement. On a fait un projet de loi pour accélérer les choses. Mais Monsieur Legault embarque un peu dans ce train-là également. Puis c'est Monsieur Drainville qui va être en charge de livrer la marchandise. Donc, on a mieux compris par la suite, mais j'avoue qu'hier soir, quand ça a commencé à circuler, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de raison, en fait, pour que Monsieur Drainville soit puni. Il avait livré la marchandise, somme toute, même si on peut être contre ou pour ses positionnements, mais ce qui avait été demandé à M. Drainville en éducation, ben, il l'avait livré. Là.
Est-ce que Jonathan Julien a été récompensé pour son jovialisme quand il parlait de la région de Québec? Moi, c'est quelque chose qui m'a surpris de le voir promoté au transport.
Oui, c'est vrai. J'avoue que j'ai partagé aussi cette surprise-là. C'était pas dans mon pool avant de commencer à recevoir les informations sur le Conseil des ministres. Monsieur Julien, qui avait été un peu écarté là, des dossiers de transport principaux de la région, était plus effacé depuis un certain moment. C'est vraiment Mme Guilbeault qui portait notamment le dossier de troisième lien qui est important pour la région de Québec. Donc là, il va reprendre un peu ses droits, on va dire ça comme ça, avec en partenariat avec lui un nouveau ministre de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, donc oui. Un nouveau visage, moins connu, qui est quelqu'un qui est reconnu pour avoir un certain talent dans le relationnel. Donc, on a une ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, qui ne s'entend pas super bien avec le maire de Québec. Il va y avoir d'autres maires et mairesses avec lesquelles transiger. On a un ministre des Transports qui a été ministre de la Capitale-Nationale, puis on a un nouveau ministre de la Capitale-Nationale qui est reconnu pour son, j'ai envie de dire, son travail transpartisan. Il était président d'une commission à l'Assemblée nationale et il était reconnu pour être très juste avec tous les partis et tout ça. Donc, est-ce que ça pourrait mettre un petit peu de lubrifiant dans les engrenages, dans les projets qui concernent la Capitale-Nationale? On verra bien.
Ça a l'air niaiseux comme question, Anto, là, mais pourquoi ils changent le monde de place? Il me semble que dans la vie, tu essaies de mettre les gens les plus compétents dans un poste où ils vont fitter puis ils vont faire avancer les choses.
T'es pas nécessairement compétent en économie puis en transport.
Ben non, je verrais pas, mettons, Christian Dubé à l'environnement, là, t'sais, dans le sens que j'ai comme l'impression que tout le monde a son casting, mais là, c'est comme si on jouait à chaise musicale pour le fun.
Ta question est loin d'être niaiseuse et je suis persuadée qu'il y a beaucoup des auditeurs qui se posent exactement la même question. C'est sûr que là-dedans, il y a une opération de communication. Okay? On veut faire une éclipse médiatique, on veut se donner un souffle nouveau, on veut rebrasser les cartes pour toutes sortes de raisons. Puis on se dit, oui, c'est la compétence dans le dossier qui devrait primer, mais en politique, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que oui, il y a des histoires de compétences, mais c'est surtout, bon, premièrement, le sens politique, ton talent en communication, tes relations que tu entretiens avec les acteurs clés. C'est pas nécessairement ton CV dans le domaine très précis. Par exemple, un Christian Dubé, là, on est habitué de le voir à la santé, mais ça pouvait surprendre la première fois qu'ils l'ont nommé ministre de la Santé, mm-hmm. parce que c'était un gars qui arrivait vraiment plus des milieux économiques, qui avait eu le Conseil du Trésor au début. Et finalement, on a décidé qu'un gestionnaire qui arrivait du privé, bien, ça serait peut-être une bonne idée plutôt qu'avoir toujours des gens issus du milieu de la santé, par exemple des médecins ou des gestionnaires de la santé. Donc, c'est normal, des fois, de rebrasser un peu les choses. Ça peut donner des résultats heureux. Des fois, ça donne des résultats moins heureux. Tu parlais de compétences, Audrey. C'est important de dire aussi que quand tu fais un conseil des ministres, c'est pas juste la compétence qui est prise en considération. Il y a la représentation régionale. Tu dois choisir de manière un peu équitable d'une région à l'autre. Il y a la parité. D'ailleurs, elle n'est pas tout à fait atteinte par la parité dans ce nouveau conseil des ministres. À moins que je calcule mal, là, j'en suis à 11 ministres féminines sur un total de 29 ministres. Donc, on n'est pas dans la zone paritaire.
C'est 12 femmes et 17 hommes, oui.
12 femmes, bon merci, avec les bons chiffres, Audrey Véro, toujours rigoureuse. Cela dit, c'est pas la parité, on ne l'atteint pas là, dans ce cas-ci comme tel. Donc, on prend tout ça en considération, en plus de considérations politiques, parce que on pourrait trouver que telle personne serait vraiment la meilleure pour aller pour faire ce dossier-là, mais peut-être que cette personne-là s'est brûlée auprès de ses groupes, par exemple. Mmh. Quand on pense à Geneviève Guilbeault puis au troisième lien, ben c'est sûr que le fait qu'elle avait mis fin au projet, puis qu'après ça, elle a réanimé le projet, compétente, pas compétente, connaissance ou pas, c'était très difficile pour elle de continuer à le défendre, donc elle s'est fait changer de place.
Dans tous ces mouvements-là, il y a l'électeur qui regarde ça, puis c'est drôle parce qu'on s'est planté un peu dans nos projections, parce que sans faire de pôle, il y en a plusieurs, puis moi j'étais là-dedans qui pensait qu'il allait avoir beaucoup de nouveaux visages ou de nouveaux noms dans ce remaniement ministériel-là. Finalement, il y en a très peu, je pense que c'est 4 ou 5 gros max. Puis on se disait, ben François Legault va essayer de nous faire croire que c'est un nouveau gouvernement, même si ça fait 8 ans qu'ils sont là, en mettant de l'avant des personnalités qu'on a moins vues, des gens qui n'étaient pas cachés dans les rideaux, mais presque, puis il va parier là-dessus pour la prochaine élection. Finalement, il y a beaucoup plus de mouvements latéraux que de nominations de gens comme, mettons, on parlait de Jean-François Simard. T'as-tu été surprise de ça, toi?
Oui et non. C'est-à-dire qu'il a tellement monté les attentes que c'est vrai qu'on a l'impression finalement que le rebrassage n'est pas si gros que ça. Mais en même temps, quand on regarde un peu qui se trouve dans quelle région et tout ça, ben c'est logique les choix qui ont été faits. Là, il y avait quelques noms qui circulaient. Il y en a certains qui doivent être déçus aujourd'hui. Là, je pense par exemple à Mathieu Lévesque en Outaouais qui était pressenti, Alice Aboukhalil dans une circonscription de Laval là, qui était pressenti. Aussi, il y a des déçus là, aujourd'hui. Il y a un mélange de stabilité et de nouveauté. On a quand même Christian Dubé, Éric Girard, Christine Fréchette, Jean Boulay, Lionel Carman, Mathieu Lacombe, Simon-Jolin Barrette qui restent en place exactement dans le même dossier. Donc, ouais. Il y a quand même un gros morceau de stabilité. Puis effectivement, on a 5 nouveaux visages qui vont pouvoir faire leur preuve là, dans la dernière année du mandat.
Dans les derniers jours, on a parlé beaucoup de François Bonnardel, qui était un vieux de la vieille, qui n'a pas été reconduit au Conseil des ministres, mais il n'est pas le seul. Puis on dirait que ça a passé dans l'ombre de tout ça, puis on ne l'avait pas vu venir. Maïté Blanchette-Vézina, qui avait quand même un dossier aussi épineux avec le projet de loi 97, a été écarté du Conseil des ministres. On dirait qu'on s'en est rendu compte une fois que toutes les nominations ont été annoncées, que tout le monde a passé au lutrin, puis on a constaté qu'elle était aussi absente, même si elle a envoyé un communiqué de presse en disant qu'elle allait continuer de servir la population. C'est quoi ta lecture par rapport à ça?
C'est sûr que ça doit être difficile humainement pour Maïté Blanchette. Cela dit, je dois dire que moi, je l'avais pas mise dans mon pool. À partir du moment où le nom d'Amélie Dionne, la députée dans la circonscription voisine, ouais, commençait à circuler.
Qui a été nommée au tourisme.
Qui a été nommée au tourisme. Je me disais que la soupe était un petit peu chaude pour Maïté Blanchette parce qu'on se doutait qu'il n'y aurait pas nécessairement 2 ministres dans la région comme telle. Elle était ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette. C'est pas un énorme dossier quand on enlève l'énergie, parce qu'avant, Ressources naturelles et l'énergie étaient ensemble. Maintenant, l'énergie a été envoyée du côté de l'économie. Donc, c'est un plus petit dossier des mines qui n'est pas toujours évident et qui n'est pas toujours, comment dire, super avantageux en termes médiatiques.
Les lobbies sont forts de part et d'autre, fait que souvent dans la communication, ça devient difficile. Là.
Puis il y a un enjeu d'acceptabilité sociale. Il y a des groupes qui brassent beaucoup, mais les entreprises qui sont contentes ou qui vont bien, ben ça fait pas beaucoup les nouvelles, puis ça sort pas beaucoup dans les médias. Donc c'est un dossier qui peut être un peu ingrat par moment. Et celui des forêts également, là, qui a toujours beaucoup de critiques là, dans le dossier des forêts.
Pour clore le dossier des représentativités régionales, François Legault, qui est ministre responsable de l'Abitibi, c'est quand même assez...
out there.
Ouais, mettons.
Ouais. Moi, je trouve pas que c'est une bonne idée. C'est rien contre l'Abitibi-Témiscamingue. Au contraire, en fait, moi, je pense qu'effectivement, il faut vraiment faire l'effort, surtout quand on a des députés nommés des ministres. Des fois, c'est pas possible pour toutes sortes de raisons. Il y en a pas en Gaspésie non plus, en passant des ministres. Là, les gens pensent que Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, c'est la même affaire, mais les gens de la Gaspésie s'inscriraient en faux en entendant ça. Quand M. Pierre Dufour, ancien ministre régional, est sorti là, avant le remaniement pour dire que ça prend un ministre dans la région, il a été exclu finalement. Puis très rapidement, du côté du gouvernement, on a réagi, on a appelé le journal, en fait, là-bas, le citoyen, pour dire ben ça va être M. Legault qui va être ministre régional. J'ai trouvé que ça avait l'air d'une réaction en panique. J'ai trouvé aussi qu'on n'a pas réfléchi aux impacts d'une décision comme celle-là. Je comprends que ça coûte pas cher de dire ça. Là. Ça coûte 0$ faire une annonce de même. Ça a l'air d'une bonne idée, puis ça calme la crise momentanément. Mais dans les faits, pourquoi le premier ministre s'occuperait plus d'une région que les autres? À part, par exemple, j'ai envie de dire, Capitale-Nationale, c'est un peu différent. C'est un jour, on a un premier ministre... Jean Charest l'avait fait, puis il y a des raisons pour ça, et je les comprends. Maintenant, juste de dire, ben on n'a pas de ministre, fait que je vais padder, puis je vais devenir le ministre régional. Et aussi, c'est qu'être ministre régional, c'est que tu réponds à des dossiers d'actualité. Des fois, en Abitibi-Témiscamingue, il y en a des épineux. Là, dans l'histoire, il y en a eu plein. La fonderie Horn, il y a eu toute l'histoire de la prostitution avec les policiers de la SQ à Val-d'Or, itinérance, les mines. tout ça, c'est des dossiers très, très épineux. Est-ce que M. Legault va répondre au quotidien sur tous ces enjeux-là? Il me semble que ce n'est pas une très bonne idée stratégiquement pour le premier ministre de s'exposer ainsi. Mais bon, on verra bien comment il va gérer ça. Je pense que le conseiller du premier ministre va devenir un acteur clé très important, notamment pour tous les acteurs là, de l'Abitibi-Témiscamingue. Il risque d'être dans le but, ce conseiller-là.
Une question sur le texto. Est-ce que Mme Guilbeault a gardé le rôle de vice-première ministre? La réponse est non, mais il n'y a personne qui a gagné le titre, là.
Non, en fait, pour ne pas avoir de chicane avec le jouet, papa a enlevé le jouet. Donc, dans un contexte où aussi les gens s'interrogent sur l'avenir de M. Legault et éventuellement sa succession, j'ai l'impression qu'on a retiré ce rôle-là parce que peu importe à qui on allait le donner, ben peut-être que ça allait donner l'impression qu'on choisissait finalement un préféré là, dans la succession de M. Legault. Les successeurs potentiels, ben Mme Guilbeault, Sonia Lebel, Simon-Jolin Barrette, notamment Bernard Drinville aussi.
Ça peut-tu donc, être un signe que François Legault planifie peut-être de partir plus tôt que ce qu'il laisse transparaître jusqu'à maintenant, puis qu'il y a une course à la chefferie éventuelle qui pourrait s'en venir?
Mais si la course à la chefferie n'a pas lieu cette année, disons que M. Legault décide, moi je reste et je fais la prochaine campagne électorale,